C'est pas un job facile, particulièrement là, là. C'est pas facile, ça n'a jamais été facile, mais là, ça se corse. Elle est avec nous ce matin, la PDG du CIS de l'Outaouais, Mme José Filion. Bonjour, Mme Filion.
Bonjour, M. Langevin. Merci.
Ben, merci d'être là, parce que je comprends que c'est pas évident. Première question, puis on est à l'extérieur de tout. Pour rassurer les gens, pensez-vous pas, Mme Filion, que ce serait plus important de tenir des points de presse ou, je ne sais pas, une conférence de presse, des entrevues comme celle que vous faites ce matin, plus régulièrement, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans la population. Le sentez-vous pas? Considérez-vous pas ça important, vous?
Bien, c'est certain qu'on a un rôle à jouer pour informer adéquatement la population. On va regarder pour peut-être faire différemment, bon, dans le contexte où la situation est différente, que les préoccupations sont omniprésentes. Donc, oui, tout à fait, je suis très à l'aise à ce qu'on remette en place là, des points de presse ou différentes modalités pour répondre là, aux préoccupations de la population, tout comme on le fait régulièrement là, dans les derniers mois. Et on va reprendre cette façon-là plus hebdomadaire ou en fonction des besoins là, dans les prochaines semaines, tout à fait.
Réglons quelque chose tout de suite. Combien de personnes dans le réseau de la santé ne sont pas adéquatement vaccinées ou ne le seront pas le 15 octobre prochain?
Donc, dans notre réseau, dans la région de l'Outaouais, là, au moment où on se parle, j'ai 1500 personnes qui ne sont pas là, adéquatement vaccinées. Donc, de ce nombre-là, il y a 1000 personnes qui n'ont pas reçu la première dose et 500 personnes qui n'ont pas reçu la deuxième dose. Donc, ce qui veut dire qu'en date du 15 octobre, j'ai espoir que les gens se sont prévalus depuis l'annonce là, leur deuxième dose pour être en mesure là, de diminuer les impacts là, sur notre offre de service.
Mais techniquement, c'est 1000 personnes que vous allez perdre le 15 octobre parce que s'ils n'ont pas eu une première dose, les 1000 en question, ils ne l'auront pas atteint, même s'ils décidaient les 1000 d'aller se faire vacciner.
Bien, c'est certain de ce nombre-là. Il y en a qui ont eu le temps avant les dates hein, pour s'assurer qu'ils soient adéquatement vaccinés en date du 15. Donc, si les gens se sont prévalus de leur vaccination dans les jours qui ont suivi, ils seront adéquatement vaccinés là au 15 octobre. Donc, bien évidemment, on suit ça de
près. Non, mais Mme Filion, vous me dites qu'il y en a 1000 qui n'ont pas eu un vaccin à date, là, aujourd'hui, le 17 septembre, c'est ça?
Bien, là, c'est le décompte que j'ai de la fin de la semaine dernière. C'est sûr qu'il y en a de ce nombre-là qui se sont prévalus du vaccin. Comme je vous mentionne, là, il y a sûrement un nombre de ceux-là qui se sont fait vacciner. Là. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire est-ce que c'est 300, 400 personnes ou 25 personnes.
Là. Bon, il y en avait 1000 vendredi, c'est ça que vous me dites?
Oui.
OK. Sur les 1000 vendredi, qui était le 11, on a le temps de les récupérer pour le 15, c'est ça que vous dites? Si c'est ces gens-là qui ont eu la première dose, mettons, cette semaine, ils ont le temps d'être adéquatement vaccinés pour le 15 octobre prochain?
Non, non, dans le fond, c'est pas ce que j'ai. C'est en fonction de l'annonce de M. Dubé au moment où il a fait cette annonce-là de vaccination. Les gens avaient quelques jours pour se prévaloir pour être adéquatement vaccinés au 15 octobre. Donc, si les gens ont attendu au début de semaine, cette semaine, mais ils ne seront pas adéquatement vaccinés avec leurs deux doses là, au 15 octobre. Donc là, je vous donne une donnée vraiment plus macro. Ça me fera plaisir de vous transmettre l'information plus fine dès qu'on aura cette information-là, parce que c'est certain que ça évolue. Les gens, à chaque jour, bon, il y en a qui se font vacciner. On a mis en place des capsules pour répondre aux préoccupations de nos employés face à la vaccination avec le Dr McHenry, que vous connaissez très bien. Et on a fait aussi une clinique de vaccination mobile, entre autres à l'hôpital de Hull, pour permettre aux gens, justement, de se faire vacciner de façon sans déplacement et vraiment sur le lieu. Donc, je vous dirais qu'on met en place toutes les mesures pour permettre aux employés de se faire vacciner et on va vous transmettre là, justement l'évolution de ça et mes équipes sur le terrain sont à évaluer là où on en est. Là.
Je reprends la question, mais d'une autre manière. Madame Filion, vous, au 15 octobre, vous pensez, dans vos scénarios, être privé de combien d'employés en raison de la vaccination obligatoire?
Bien, c'est certain que le nombre risque d'être très élevé, on ne se le cachera pas. En ce moment, comme je vous dis, en date d'il y a quelques jours, on est à 1500 personnes, donc il est fort à parier qu'il y a peut-être au moins plus de 1000 personnes qui ne soient pas adéquatement vaccinées. Non.
Bon.
On va espérer qu'il y en ait le moins d'impact possible, mais vous comprendrez qu'au 15 octobre, c'est une date importante, mais dans les jours qui vont suivre, dans la semaine, dans les quelques semaines qui vont suivre, il y a des gens qui se sont fait vacciner et qui seront adéquatement vaccinés, puis ils vont pouvoir revenir au travail une fois cette date-là, une fois leur vaccination faite. Ouais.
Mais on peut bien espérer, mais c'est pas l'espoir qui va nous ramener du monde. Ça, on s'entend tous les deux là-dessus. Là, vous entendez le gouvernement dire on va ramener des infirmières à la retraite, on va ramener du personnel. Vous, là, dans le meilleur des mondes, dans les projections que vous avez, tout de suite, on a besoin de combien de personnes supplémentaires? Là? Je parle même pas du 15. Là. Je parle de tout de suite là, pour qu'on rouvre les urgences, qu'on soit fonctionnel comme il faut, parce que là, on ne l'est pas nécessairement. Combien de personnes on aurait besoin dans l'Outaouais? Là? Combien d'infirmiers, infirmières supplémentaires on aurait besoin pour qu'on ait un système de santé là, dit, décent et à la hauteur des attentes des citoyens qui payent des taxes?
Oui, donc si j'avais une baguette magique, là, puis comme vous dites, là, j'oublie là, l'histoire de la vaccination, là, j'aurais besoin aujourd'hui de 350 infirmières. Donc avec ce nombre-là, ça nous permettrait de donner accès beaucoup plus facilement à nos unités de soins pour de l'hospitalisation, à nos blocs opératoires pour faire de la chirurgie et à d'autres services où il y a un niveau de fragilité très élevé, autre qu'à la direction des soins infirmiers. Donc, je vous dirais, si on avait 350 infirmières, ça serait vraiment une excellente nouvelle.
Oui. 350, ça, c'est ce qu'on aurait comme besoin. Puis là, si on ajoute celle-là qu'on va perdre peut-être le 15 octobre pour une période X indéterminée, il y a aussi les réfractaires, les purs et durs qui vont dire « ben moi, j'en veux pas de vaccin ». Eux autres, anticipez-vous qu'il y en ait que vous perdiez à jamais des infirmiers et des infirmières?
J'étais peut-être à mentionner quelque chose par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés là, dans le nombre qu'on a discuté précédemment. Là, c'est pas seulement des infirmières, hein, c'est de tout titre d'emploi, oui. Tout travailleur au sein de l'organisation.
Oui.
Donc, ça peut être des secteurs où c'est des petits services, que c'est deux personnes qui travaillent dans ce service-là, puis que les deux personnes ne soient pas vaccinées. Donc, ça devient un niveau de difficulté. Donc, c'est certain que ça peut avoir un impact dans d'autres secteurs.
Est-ce que Christian Dubé, avec qui j'ai eu une bonne discussion hier, vous a dit « c'est correct, là, dans l'Outaouais, vous avez du cash, puis vous pouvez niveler des offres puis des primes. » Est-ce que c'est ça la solution? Comment vous entrevoyez? Gardez vos infirmiers et infirmières qui sont là actuellement, mais en attirez d'autres. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre de plus à la table pour convaincre le monde de venir travailler chez nous?
Bien, c'est certain que tout ce qui est le volet salaire ou prime et tout ça, moi, j'ai pas cette possibilité-là d'offrir toute rémunération supplémentaire à toute personne. Donc, ça relève vraiment du gouvernement. Toutefois, pour nous, ce qui est important de faire, c'est de s'assurer que le climat de travail, l'organisation du travail répond aux besoins des employés, répond aux besoins aussi là de la clientèle, hein, qu'on donne des soins et des services de qualité là à notre population. Donc, pour moi, ça fait partie des stratégies, s'assurer que nos processus de dotation, quand les gens apportent leur curriculum vitae, là, quand on les reçoit, que ça se traite dans les meilleurs délais, qu'il n'y ait pas de délai à ce niveau-là et que sur le terrain, justement, comme je vous mentionne, ça se passe très bien.
On a entendu le témoignage de deux infirmières. Dans tout le Québec, là, il y a deux infirmières qui ont témoigné publiquement et qui ont expliqué pourquoi elles ont sacré leur camp en Ontario. Vous les avez sans doute entendues, ces deux infirmières-là, Mme Filion?
Oui.
On dirait que tout est mal organisé. On dirait que tout est tout croche. Je ne veux pas vous lancer de pierre ce matin, mais je veux dire, déjà qu'on travaille dans un cadre qui est très difficile, puis former des employés pendant qu'on est dans le jus comme ça se peut pas pour d'autres départements, peut-être des gens qui ça n'a pas rapport. J'écoutais l'infirmière le Biaka Villeneuve hier. J'avais des boutons, là. Comprenez-vous ça?
Moi, je suis pas prête du tout à dire qu'il y a toute une désorganisation et tout ça. Là. La situation est très difficile, je l'avoue. Et dans l'Outaouais, sur le terrain, entre autres pour le personnel infirmier, on le sait, on est en pénurie de main-d'œuvre depuis très longtemps, puis ça s'est accentué en ce moment. Quand j'entends par rapport à la formation, l'orientation sur le terrain, qu'on ait à former du nouveau personnel, bien, si on veut du sang neuf dans nos équipes, puis des nouvelles ressources qui viennent travailler avec nous, ben ça fait partie de ce qu'on doit faire, puis la contribution du personnel sur le terrain. Qui de mieux que pour former des nouvelles ressources que les gens qui sont sur le terrain, qui connaissent le mode de fonctionnement, les particularités du secteur d'activité. Donc, je peux comprendre que ça peut être vu comme une charge de travail, mais en même temps, la personne qui est en orientation, c'est déjà une professionnelle de la santé qui a des connaissances, qui a un bagage et tout ça. Donc, il y a des choses que cette personne-là est capable de faire. Donc, c'est certain que ça ajoute du coaching supplémentaire à faire. Toutefois, ça fait partie de, si on veut des nouvelles ressources, ben il faut prendre le temps de bien accompagner le personnel qui veut venir travailler avec nous. Sinon, je vous le dis, on s'en sortira jamais. Donc, ça fait partie de la contribution qu'on doit faire tout le monde ensemble pour y arriver, là.
Dans le cas de Caroline Dufour, elle a parlé beaucoup des ratios qui sont bien moins importants en Ontario qu'à Gatineau. Moi, j'ai pas envie de tomber malade à Gatineau, sachant que, je sais pas, moi, une infirmière sur le plancher avec une infirmière auxiliaire ou une préposée a 14 personnes à s'occuper en même temps. J'ai des frissons.
Bien, je vous dirais, par rapport à ça, ça peut être discutable par rapport au volet de nos ratios là, dans nos salles d'urgence, tout à fait. C'est sûr que si on regarde une clientèle qui est en attente d'hospitalisation, qui est plus stable, pour moi, c'est quelque chose versus des personnes qui viennent d'arriver, qu'on ne connaît pas nécessairement leurs conditions de santé, ça fait quelques heures qu'ils sont dans notre salle d'urgence. Mais vous avez raison, les ratios sont pas comparables. Puis en même temps, il y a différents critères qu'il faut aussi là évaluer. Notre souhait, ce n'est pas d'être en dehors des ratios qui est prévu au Québec dans notre guide de gestion des urgences. Toutefois, le contexte de pénurie nous amène dans cette situation-là. Puis en même temps, je suis consciente que, oui, nos infirmières, ils ont beaucoup de choses à faire, le ratio des ressources, mais en même temps, il y a beaucoup de documentation clinique à faire. Vous savez, l'infirmière a l'obligation d'inscrire dans son dossier tous les actes, les actions qu'elle a fait, les évaluations qu'elle a fait.
Ouais.
Donc, elle n'a pas le choix, c'est au niveau légal. Hein. Tout ce qui n'est pas écrit, bien, considéré comme non fait. Alors, parfois, les gens vont dire, bien, elle passe son temps dans la paperasse, elle est au dossier, mais elle doit documenter. Et c'est là le travail qu'on a et que notre direction des soins travaille à diminuer, à comment on peut faciliter la complétion de toutes ces feuilles-là pour diminuer la charge de travail de nos infirmières. Pour moi, ça fait partie du rôle qu'on doit faire pour faciliter le travail et organiser le travail de nos équipes sur le terrain.
Pour s'en sortir, c'est une question d'argent. Ça prend-tu, c'est-tu ça la clé, le cash?
Bien, je vous dirais qu'il y a plusieurs éléments. Pour moi, la notion d'argent, ça fait un temps. On le sait, déjà dans la région, le personnel qui travaille sur des corps de soir et de nuit ont déjà des primes de plus que ce qui est
octroyé. Je parle pas juste de l'argent pour les employés, mais je veux dire, vous, là, comme gestionnaire pour régler le problème, dites-vous à Québec, ça me prend plus de cash?
Dans le fond, ce que j'ai besoin, c'est du soutien pour mes équipes sur le terrain. En ce moment, je suis pas à l'étape de dire « j'ai besoin d'argent ». Je suis à l'étape de dire j'ai besoin d'aide pour soutenir mes équipes sur le terrain, soutenir ma direction des soins, soutenir l'équipe médicale pour justement améliorer l'environnement de travail, les conditions de travail de nos employés. Concrètement, quand je vous parle de la documentation clinique, ce sont toutes les choses sur lesquelles on doit travailler pour améliorer la situation là, de nos employés. Donc, à ce moment-ci, je suis vraiment pas dans une demande financière à Québec pour dire donnez-moi de l'argent pour que ça aille mieux. On a ce qu'il faut, c'est vraiment des ressources que j'ai besoin.
Êtes-vous à l'écoute de vos employés, Mme Filion?
Oui, très certainement. Puis vous le savez, à l'écoute, une fille qui aime être sur le terrain. Je suis infirmière de profession. Ce qu'ils vivent, je le comprends très bien. J'ai connu ça moi aussi, d'être sur le terrain et avoir des nouvelles difficultés de ressources et tout ça. Donc, probablement, c'est ce qui amène mon plus grand niveau de sensibilité par rapport à ça. Et dans le cadre de mes fonctions, je dirais, c'est ce que je trouve le plus difficile, de dire comment on n'arrive pas à avoir autant de personnel pour avoir un climat de travail, que les gens sont heureux, fiers de travailler dans notre organisation, puis qu'il y a un esprit d'équipe, puis de collaboration en tant que tel. Donc, c'est pour ça que le message que je dirais à nos infirmières, je le sais, ça fait 2 ans, c'est très difficile. ça ne l'était pas facile non plus avant. Mais pour moi, il y a une lumière au bout du tunnel, puis que je vais continuer à travailler avec les employés, avec nos infirmières, avec nos médecins pour s'assurer que la situation s'améliore grandement. J'ai à cœur notre réseau. Je crois à notre réseau dans l'Outaouais. On est capable. Il y a plein de belles choses qu'on fait. On parle de choses plus difficiles, plus négatives, pas plus tard qu'hier. Hein, j'étais à une activité où on lançait un programme pour nos jeunes en difficulté. Des équipes sur le terrain travaillent ça. L'équipe santé mentale se mobilise pour répondre aux besoins de la population. Alors, vous entendez parler beaucoup des besoins de santé mentale, mais vous n'entendez pas tous les bons coups que mon équipe santé mentale fait pour répondre aux besoins de la population dans l'Outaouais. Donc, moi, c'est vraiment le message que je souhaite dire. C'est pas facile, mais il faut garder le cap. On va passer à travers. Il y a une lumière au bout du tunnel, puis ce sera que du positif. J'en suis convaincue, puis les gens peuvent compter sur moi pour apporter les messages à qui de droit si c'est nécessaire. C'est mon rôle, et voilà, c'est le message que vraiment je souhaite dire. Puis à la population, là, ben, ils peuvent compter sur moi. Je sais que c'est pas facile d'avoir accès. Il y a des niveaux de difficulté, mais on travaille pour y arriver et on innove pour y arriver. Donc, c'est vraiment le mandat que je me suis donné comme PDG.
Dernier point, très rapidement. Donc, si on résume, là, vous, d'ici le 15 octobre, vous avez besoin, pour que ça marche bien, là, mettons, là, on parle pour parler tous les deux, là, d'à peu près 1350 personnes en renfort.
Bien, ça veut dire, c'est ça, si on veut 000 impact sur notre capacité de donner des services, faut que tout ce monde-là, oui, c'est ça.
Madame Filion, bonne chance.
Merci beaucoup.
Merci. Madame José Filion, la PDG du CIS de l'Outaouais, vous venez d'avoir là le portrait clair de la problématique régionale quant à nos hôpitaux. Comme diraient certains, on n'est pas sorti du bois. Mais ce que j'apprécie de cette femme-là, c'est que malgré tout ça, malgré la pandémie, malgré la vaccination, il y a déjà une pénurie, il y a un climat de travail de merde. Malgré tout, elle continue à dire « c'est mon rôle, puis vous pouvez compter sur moi que je vais faire tout ce que je peux, tout ce qui est à mon possible. » Moi, j'aurais envie de tout sacrer ça là.